VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Il est midi à Bangui en Centrafrique. Au Kenya, la commission électorale pourrait annoncer dans l'après-midi le nom du vainqueur de l'élection présidentielle de mardi. Uhuru Kenyatta, 55 ans, disposerait de 1,5 million de voix d'avance sur son rival, selon des résultats partiels portant sur la quasi-totalité des bulletins, et semble en passe de remporter un second tour, un second et dernier mandat de 5 ans. Mais Raila Odinga, 11 ans, conteste ces résultats dont il a affirmé à plusieurs reprises sans apporter de preuves qu'ils étaient faux. Son parti l'a déclaré vainqueur du scrutin jeudi en disant se baser sur des résultats transmis par une source secrète au sein de la commission électorale. La police kenyane était en état d'alerte maximale à quelques heures de la possible proclamation du résultat de l'élection. Le groupe de travail sur le processus de paix en RDC évalue dans son rapport la mise en œuvre de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. 7 mois après, Joseph Kabila est toujours au pouvoir et l'opposition exige toujours des élections avant la fin de l'année. Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité, appelle à la poursuite des concertations.
Nous pensons que ces acteurs pourraient faire preuve de bonne foi pour faciliter l'organisation des élections dans le respect du délai convenu dans l'accord politique. Et nous pensons également que ce parti présente pourrait arriver à dégager un consensus pour la redéfinition de la séquence électorale en privilégiant l'élection présidentielle. C'est facile à organiser en tenant compte du temps. Mais au-delà des parties présentes de manière globale, nous avons également pensé aux institutions de la République, Assemblée nationale, au Sénat, à la CENI, au gouvernement et également au CNSA qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de la sécurité et de la justice en RDC. La Centrafrique est menacée par une prolifération de groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles, provoquant une partition de fait du pays, selon le rapport d'un groupe de réflexion publié jeudi, au moment où les violences redoublent et où l'ONU évoque un risque de génocide. Le rapport fait comprendre que la lecture confessionnelle du conflit n'est plus la seule valable, car certains groupes armés, autrefois ennemis, s'allient ponctuellement selon un agenda politique propre. L'ex-Seleka s'est ainsi divisé en 8 groupes armés, tandis que les milices anti-Balaka se sont divisées en 4 groupes distincts.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Johan Gustafsson, un ex-otage suédois détenu par Al-Qaïda au Mali pendant plus de 5 ans avant d'être libéré en juin, a dénoncé jeudi le versement de rançon dans les affaires d'enlèvement. Amadou Ould Abdallah, ancien fonctionnaire de l'ONU, actuellement directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, se veut aussi perplexe.
Je pense que beaucoup de personnes d'institutions dans le Sahel, donc au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso, en particulier, sans mentionner le Tchad, se posent des questions. Ces libérations successives, donc les 2 otages ont été libérés rapidement, il y a quelque chose de nouveau, c'est que la libération s'est faite loin des palais présidentiels, s'est faite loin de la présence de la presse et des caméras de télévision, et s'est faite loin des déclarations convenues de remerciement, et elle s'est faite aussi sans compensation de couverture, parce qu'on n'a jamais parlé d'argent payé, même si tout le monde sait qu'il a été payé. On a surtout vu des prisonniers proches des ravisseurs être libéré. Or, cette fois-ci, donc, ni caméra, ni discours de remerciement, ni libération des prisonniers. Et c'est une nouvelle, donc, donne qui se développe au Sahel et qui mérite d'être mieux examinée et mieux discutée.
Le directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara, Amadou Ould Abdallah, joint à Bruxelles. Au Mali même, l'ONU dénonce la présence d'enfants soldats dans les rangs de groupes armés s'affrontant dans le nord, mais aussi de prisonniers mineurs aux mains de l'ex-rébellion à dominant Touareg, Sema, dans son fief de Kidal. Malgré un accord de paix signé en mai-juin 2015, les combats ont repris ces dernières semaines entre les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme et les groupes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Sur les 33 personnes actuellement détenues par la Sema à Kidal, 8 sont des enfants, a indiqué dans un communiqué la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali. La MINUSPA a également détaillé des violations des droits de l'homme perpétrées par les deux camps et relevées lors de 7 missions sur le terrain effectuées par la MINUSPA depuis un mois. Adopté en l'an 2000, l'African Growth and Opportunity Act soutient l'économie de 38 pays africains éligibles à ce jour. L'heure est donc au bilan. Dans la capitale togolaise, dirigeants américains et africains en présence d'hommes d'affaires viennent d'envisager comment tirer le meilleur profit de cet accord de libre-échange. Ce forum de l'AGOA a pris fin hier jeudi. Reportage Ideal Concept Production. Récit, Gabi Dorsil.
Le 16e forum de l'AGOA a servi de cadre au ministre du Commerce des pays éligibles afin de tirer meilleur profit de cette loi. C'est une loi qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Bernadette Legezim Balouki, ministre du Commerce du Togo.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelles sont les contraintes. Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont été éligibles à l'AGOA n'ont pas encore profité de cette loi.
Le forum de Lomé intervient à un moment où on note que la nouvelle administration américaine porte moins son attention sur le continent africain. À raison, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'avenir de la loi, mais les responsables américains rassurent.
The United States is committed to Africa.
L'engagement des États-Unis envers l'Afrique continue. Nous voyons de grandes possibilités d'approfondir nos rapports commerciaux avec, comme objectif, la création d'un partenariat véritable pour l'avenir. La baisse des barrières commerciales et autres éléments qui gênent le commerce et l'investissement contribuera à l'amélioration des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Cependant, pour y arriver, il nous faut faire davantage et cela fait partie des discussions de cet important forum de l'AGOA.
Déclaration de Robert Lighthizer, représentant des États-Unis pour le commerce. Au total, 6 000 produits sont concernés par la réduction de taxes à l'importation, mais elles ne sont applicables que sous certaines conditions. Candide Léguédé, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, explique.
C'est vrai que c'est tout un processus. Il faut se préparer pour aller à l'exportation. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire qu'on veut aller sur le marché américain. Il y a aussi le problème d'accès au marché. Nos États, ceux qui sont admis sous AGOA, doivent donc mettre en place des stratégies et des plans d'action pour pouvoir faciliter donc ce processus-là.
L'AGOA devait expirer en septembre 2015, mais elle a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2025.
Les groupes djihadistes, État islamique et Al-Qaïda ont conservé des capacités d'action importantes au cours des 6 premiers mois de l'année 2017, malgré la pression militaire internationale à leur encontre, selon un rapport d'experts de l'ONU réalisé par des experts mandatés pour suivre l'application des différentes résolutions et des sanctions adoptées contre les deux groupes djihadistes. Le texte de 24 pages relève que l'État islamique continue de motiver et de rendre possible des attaques hors du Moyen-Orient. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a lancé aujourd'hui un ultimatum au Laos voisin pour qu'il retire une trentaine de soldats déployés de son côté de la frontière, une incursion comparable à une invasion selon lui. Il a même annoncé le déploiement de soldats cambodgiens équipés de lance-roquettes dans la zone. Le Cambodge et le Laos partagent une frontière de 540 km, mais certaines parties ne sont toujours pas clairement délimitées. Et puis le président américain Donald Trump a redoublé de virulence face à la Corée du Nord en estimant que sa formule « le feu et la colère » promis à Pyongyang n'était peut-être pas assez dur. Sur un ton moins martial, le ministre américain de la Défense Jim Mattis a insisté jeudi sur le fait que l'effort américain est porté par la diplomatie. Il y a des résultats diplomatiques et je veux veut rester sur cette dynamique, a-t-il déclaré lors d'un déplacement en Californie où il a mis en garde contre le scénario catastrophique d'un conflit armé. Pyongyang a présenté son projet détaillé pour tirer 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam, avant-poste stratégique des forces américaines dans le Pacifique sur la route de l'Asie. Cela constituera un avertissement crucial aux États-Unis, a prévenu la Corée du Nord. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Maven.